avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain avec le retour du coach. Bonjour Didier Akwete.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Directeur général d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines et à vos heures, perdu coach pour les jeunes voisins et voisines qui rêvent ou qui l'ont déjà fait entreprendre, monter sa boîte en Afrique et pour l'Afrique. Chez 7 milliards, on les appelle les JPAG.
Les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Je crois qu'au bout de 2 ans maintenant,
ça y est,
je maîtrise l'affaire.
C'est bon, 7 milliards de voisins, à l'heure de l'auto-entrepreneuriat, vous avez la parole, où que vous soyez d'ailleurs sur le continent. Il suffit d'appeler notre studio pour nous exposer vos projets synthétiquement et puis surtout les blocages auxquels vous êtes confrontés. Didier Akwete vous écoute, vous conseille. 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi un WhatsApp sur lequel vous pouvez nous téléphoner gratuitement et nous envoyer des messages. Et pour ceux qui ne sont pas prêts à parler de leur projet dans l'émission d'aujourd'hui, il y a aussi une adresse mail pour passer le mois prochain, puisque le coach vient tous les mois, 7milliards@rfi.fr. Didier Akwete, vous revenez du forum des PME africaines à Johannesburg que vous avez fondé, Africa SME Champions Forum. Vous êtes l'instigateur de ce forum. Cette année, c'était à Johannesburg, avec toujours le même objectif, se rencontrer des entrepreneurs avec des investisseurs.
Oui, effectivement, mais aussi donner de la matière aux PME pour qu'elles se développent un peu plus vite à travers les masterclass, leur permet de se connecter entre elles et puis aussi de récompenser les meilleurs. Effectivement, on a eu 2 journées extraordinaires avec 500 participants sur les 2 jours, des PME de plus de 20 pays, de différents secteurs. Et c'était toujours aussi exaltant, avec des PME qui sont reparties assez conquises à travers les commentaires assez élogieux que nous avions reçus. Donc c'est plutôt un forum très encourageant.
Il y a eu des prix.
Comme chaque année, avec les awards, on a donné une award à une PME sud-africaine qui est une femme qui fait du design de bijoux, vraiment extrêmement original, qui a la conquête de l'Afrique et du monde.
Et pourtant, il y a de la concurrence dans ce domaine.
Absolument. Et en fait, son approche était très originale et le jury lui a décerné le prix de la meilleure PME. Et puis, le meilleur start-upper, c'est un jeune entrepreneur qui vit au Rwanda, originaire du Botswana, qui a créé une application qui permet, quand vous photographiez une plante, d'identifier les maladies dont la plante souffre et donc d'apporter des solutions. Donc c'est extrêmement original. Donc ça allie innovation, technologie, et donc c'est lui qui a gagné le prix de la meilleure start-up. Et donc l'Afrique innove et c'était extrêmement excitant de voir toutes ces PME venant de partout qui font la croissance africaine.
Ouais. Et le business échappe aux violences à l'égard des étrangers. Ça s'est déroulé à Johannesburg après effectivement une période difficile.
Et bien justement, le forum est extrêmement métissé et la province du Gauteng, où se trouve donc Johannesburg, a un gros projet justement où ils veulent solliciter des consultants venant d'autres pays africains pour renforcer ce métissage culturel et des compétences. Et le pays en a vraiment besoin avec une dynamique qu'ils essaient de réimpulser à travers les PME, les TPE. Et finalement, les problèmes que rencontrent les PME TPE en Afrique du Sud sont quasiment les mêmes que les autres PME du continent. Et donc, c'est important de fédérer toutes ces énergies, toutes ces PME continentales pour changer la dynamique des PME africaines.
Alors, les PME que vous avez réunies dans ce forum que vous réunissez chaque année, ce sont des PME qui sont déjà bien installées, qui sont déjà sur une vitesse de croisière. Nous, on donne la parole à des TPE plus jeunes, mais pas moins inventives. On démarre et on vous redonne bien sûr notre numéro de téléphone et le WhatsApp 33 1 84 22 71 71. La règle du jeu, c'est toujours la même pour dialoguer avec le coach. Vous exposez très synthétiquement, très clairement le projet, la boîte que vous avez créée ou celle que vous voulez créer. Et puis ensuite, bien sûr, vous arrivez vite à vos difficultés et aux questions que vous souhaitez poser à Didier Akwete, le coach.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
Brice est en ligne avec nous de Cotonou. Bonjour Brice.
Bonjour Emmanuel.
Brice, vous êtes béninois, vous avez 26 ans. Votre parcours, c'est une licence en gestion des transports et logistique à l'université au Bénin. Vous êtes un passionné de numérique. Vous êtes formé tout seul aussi, avec des vidéos et du e-learning. Vous êtes formé au web design, au marketing digital. Et dès votre deuxième année de licence, en 2014, vous avez créé une petite agence d'hébergement web et de création de sites web. Et vous avez dit à Delphine au Standard que, comme autodidacte, c'est très difficile, en tout cas à l'époque, c'était très difficile de trouver du travail au Bénin. Donc, du coup, vous avez créé votre boîte qui réunit en fait quatre entreprises de services digitaux. Et donc, dans ces services, il y a Aginap, qui a été lancé il y a pile 2 ans. Vous pouvez nous dire exactement ce que c'est que Aginap?
Aginap, c'est en fait une application, une plateforme qui aide les entreprises à booster leurs ventes à travers des outils d'automatisation de marketing sur les réseaux sociaux, via les SMS et les emails.
Et donc, comment ça marche? À partir de quel constat vous avez fondé cette entreprise?
Eh bien, ça commence déjà par mes propres expériences et les difficultés que j'ai rencontrées. Quand j'étais encore étudiant en deuxième année, j'ai commencé par administrer des pages, à gérer la communauté des entreprises en ligne. Et je suis confronté à des difficultés comme des questions récurrentes et fréquentes. Il y a des internautes qui viennent, par exemple, demander des informations qui sont déjà dans la description du contenu. Oui. Par exemple, l'adresse, le téléphone, le prix du produit. Pourtant, ces informations sont toutes expliquées. Oui. Et donc, c'est très difficile de répondre à chacun individuellement à faire les questions qui reviennent.
Oui.
Une autre chose, c'est que les internautes chez nous ont l'habitude de se connecter avant d'aller au travail ou juste après le travail. Un moment où le community manager n'est pas connecté. Et il se prépare pour aller au travail.
Ah bah oui.
Il sort du travail. Donc, il répond plus tard, le moment où les internautes ne sont plus connectés, alors qu'ils avaient besoin d'une réponse instantanée. Donc, c'est très difficile de gérer vraiment ça.
La relation client, en fait, là, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va très vite, qui est très immédiat. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous proposez comme service automatisé?
Ce qu'on appelle aujourd'hui les chatbots, ce sont des assistants conversationnels qui peuvent prendre la parole et discuter avec l'internaute et comprendre ses besoins et lui proposer des réponses de façon automatique. C'est ce qui est vraiment innovant dans l'assistance à la clientèle. Je prends un assistant qui montre les produits d'une entreprise qui vend des produits électroménagers. Donc, dès que vous venez, vous dites par exemple, je vais acheter un congélateur. Alors, il vous propose tous les congélateurs dont dispose la boutique avec les prix. Et donc, vous pouvez, il y a des petits boutons sur lesquels vous cliquez pour avoir des détails, des contacts, les boutiques où vous pouvez vous rendre pour acheter. Et si éventuellement vous voulez acheter en ligne, cet assistant accepte des moyens de paiement que vous avez déjà et automatiquement ainsi, vous êtes livré. Et aussi, les questions récurrentes, comme je dis souvent, les questions fréquentes, comme où est-ce que vous vous trouvez, quel est votre numéro de téléphone, qu'est-ce que vous vendez, quels sont vos services, ces réponses sont envoyées de façon automatique. C'est là vraiment, c'est une bonne satisfaction de la clientèle parce que les gens veulent avoir des réponses automatiques plutôt que des jours, des heures. Ce qui se trouve généralement, les entreprises chez nous, ils prennent des heures, des jours pour répondre à ces petits messages-là.
Ah bah moi, je ne savais pas que c'était un robot qui me répondait quand je vais me plaindre sur un site internet. Didier, à côté, je pense que vous connaissez bien.
Voilà. Ça dépend de votre plainte.
C'est automatique, dans la plupart des cas.
Vous avez deux questions pour le coach Didier à côté, Brice. On vous écoute.
Oui. La première question, au départ, quand nous avons créé l'application, c'était pour répondre à un besoin, pour aider les entreprises à utiliser la plateforme pour automatiser les business, que ce soit la publication des contenus, envoi des messages, la gestion des commentaires. En fait, globalement, tout ce qu'ils font manuellement sur les pages Facebook, qui les prennent énormément de temps ou bien sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter.
Chez nous, c'est pareil pour gérer les pages d'émission, je peux vous dire. Ça prend beaucoup de temps.
Effectivement. Donc, nous avons créé la plateforme pour les aider. Mais il se peut que cette entreprise, il n'y a pas souvent d'employés ou d'agents qui soient compétents pour mettre en œuvre la stratégie. Et donc, notre difficulté, c'est qu'on est en même temps les aider, on devient en même temps le community manager. Donc, nous voudrions demander au coach comment nous pourrons les amener à plutôt utiliser notre service, acheter nos services, à souscrire à nos différents parts, plutôt que nous les offrons encore notre main de plus parce que ça nous revient plus cher.
C'est vrai que c'est un peu l'avenir du SAV et du suivi client.
C'est-à-dire qu'il veut vendre des packs, mais il ne veut pas vendre quelque chose de chronophage et du conseil chronophage.
Alors c'est vrai, mais de plus en plus d'entreprises essaient d'externaliser ses prestations. Et ce que vous offrez, si j'ai bien compris, c'est pour que l'entreprise, entre guillemets, à travers cette solution automatisée, gère sa relation client. Mais pourquoi vous ne voulez pas leur permettre d'externaliser cette prestation auprès de, justement de vos services en leur facturant des jours hommes et un service d'assistance?
C'est ce que nous faisons. Nous les aidons vraiment à externaliser ce service et nous prenons en charge. Mais toutefois, les prix que nous proposons ne sont souvent pas abordables pour ces nouvelles entreprises-là. Donc, ce qui revient à nous très cher, puisque nous faut une très bonne équipe des community managers qui soit là régulièrement pour pouvoir gérer cette entreprise-là. Donc, voilà ce qui nous revient très cher, alors qu'au départ.
En gros, si j'ai bien compris, les packs que vous vendez de gestion automatique, ça c'est rentable, mais faire du service, soit vous facturez trop cher, soit vous êtes perdant, c'est ça?
Effectivement, parce que sans entreprise, n'arrive pas à payer exactement ce qu'il faut pour pouvoir combler les besoins.
En fait, ça dépend vraiment des segments de clientèle auxquels vous attaquez. Si par exemple, vous prenez une banque qui veut acheter ce service, généralement, la banque va avoir, en guillemets, un community manager en interne, mais qui ne peut pas forcément adresser toutes les problématiques auxquelles les clients sont confrontés. Et là, vous venez en support. Si c'est une petite entreprise, en guillemets, qui n'a pas les moyens de se payer un community manager, le pack d'entrée le plus faible avec un niveau de réponse, en guillemets, un peu d'entrée de service, peut-être répondre à son besoin. En fait, ce que je vois derrière votre problématique, c'est la question de la segmentation de votre marché. Il y a des entreprises qui peuvent se permettre de payer un community manager et aussi la plateforme que vous offrez. À la limite, elles n'auront pas besoin de votre assistance humaine, c'est-à-dire d'externaliser cette prestation. Et puis, une partie de leur prestation peut être externalisée chez vous. Et puis, des entreprises de taille intermédiaire qui ne peuvent pas se payer un community manager, mais qui ont besoin de votre service en entrée de gamme. Et justement, le prix d'accès de l'entrée de gamme serait autour de combien? Comment vous facturez la prestation?
Bon, la prestation est facturée suivant le nombre de réseaux sociaux dont l'entreprise dispose. Par exemple, il y a une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram. Chez nous, en moyenne, ça fait 100 000 francs le mois.
Non, mais en fait, les prix que vous annoncez, quand une entreprise est capable de payer un community manager 200, 300, 400 ou 500 000 francs, donc selon le type d'entreprise, vous voyez que nous sommes toujours dans la gamme de prix que vous proposez, avec peut-être une assistance interne. Ce que je vois en fait, hein, c'est honnêtement, c'est de plus en plus une tendance à l'externalisation de ce genre de service lorsque c'est des entreprises d'une certaine taille. Et pour les petites entreprises qui au début sont prêtes à intégrer un community manager qui n'est pas excessivement payé dans un premier temps, vous pouvez apporter une offre complémentaire de services automatisés avec toute l'intelligence artificielle que vous mettez derrière. Mais clairement, c'est un produit qui doit fonctionner, mais avec dans un premier temps des entreprises qui ont des clients en guillemets assez exigeants, des clients qui ont besoin de réponses, des clients qui ont besoin d'interactivité avec l'entreprise, avec leurs prestataires.
Brice, à Ginap, c'est une équipe de 5 personnes qui est, vous arrivez à ce que ça soit à peu près rentable aujourd'hui?
Oui. Maintenant, plus nous avançons, plus le nombre de clients que nous avons sur la plateforme devient important.
Justement, Brice, vous avez une question concernant une prochaine levée de fonds?
Comment nous pouvions mieux gérer nos finances et préparer la levée de fonds, parce que pour les objectifs que nous avons atteints, ils sont très grands et il faut vraiment une levée de fonds pour pouvoir vite grandir. Mmh.
Vous voulez passer la barre des 1000 utilisateurs actifs d'ici 2020 et au-delà, bien sûr, ensuite, et proposer des versions. Là, vous êtes en version en anglais, mais vous voulez proposer des versions dans d'autres langues, hein, c'est ça?
Oui, c'est exact.
Où sont situés la plupart de vos clients actuellement, Brice?
40% en Amérique, 30% en Europe et à peine 20% en Afrique.
Alors, ce qui va intéresser les investisseurs, c'est la capacité à capter le marché africain qui intéresse de plus en plus d'investisseurs. Et on a vu ces derniers mois quelques futures licornes africaines lever des fonds justement en misant sur le marché africain. Alors, ce qui va donner de l'appétit à ces investisseurs, ça va être votre capacité à croître votre portefeuille Afrique pour leur, justement, leur donner le potentiel de ce marché pour les faire entrer. Parce que sur les marchés internationaux, même si aujourd'hui, c'est des marchés un peu plus mûrs, vous avez aussi beaucoup plus de compétition. Donc, je crois que si vous avez une histoire africaine à raconter avec des clients africains, des potentiels futurs clients africains, la levée de fonds devait être un peu plus facilitée. Donc, je vous encouragerais à accentuer votre pénétration commerciale sur l'Afrique pour attirer les investisseurs.
Ouais, d'habitude, on voit des PME américaines qui s'adressent à la Silicon Valley indienne hein, pour avoir des services informatiques de qualité. Ben voilà, maintenant, ils s'adressent au Bénin.
Absolument.
Très bonne journée, Brice. Et puis, très bonne chance pour la suite et pour la levée de fonds, donc.
Merci beaucoup.
Merci, très bonne journée. À Cotonou, 7 milliards de voisins, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain. Ce sont les JPAG qu'on écoute et qui sollicitent des conseils du coach Didier Akwété. Vous nous appelez surtout au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp.
Et je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain. Dedans comme dehors, je suis africain. Je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Porteur de projet pour dialoguer avec le coach Didier Akwété, puisque c'est l'émission des JPAG aujourd'hui, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Jean-Brice, 28 ans, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour,
bonjour.
Jean-Brice.
Bonjour.
Jean-Brice,
bonjour.
Vous avez un diplôme d'économie, vous avez fait un master aussi de marché financier au Maroc. Vous avez ensuite commencé votre parcours dans la banque et dans le e-commerce au Maroc, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Et vous êtes rentré ensuite en Côte d'Ivoire il y a quelques mois ?
Il y a quand même un an maintenant.
Et vous avez créé CDC. C'est d'ici, bah oui, c'est de chez vous, quoi. Une plateforme de e-commerce de produits alimentaires made in Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez été inspiré par vos expériences au Maroc ?
En ce qui concerne le e-commerce, j'ai eu une petite expérience dans un e-commerce qui était concentré sur les produits de bricolage, en fait. Et j'avais pas mal accroché, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, lorsque je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'avais envie, en fait, de faire un e-commerce. Sauf que je me disais, si on doit créer une entreprise, il vaut mieux créer une entreprise qui aura un impact et non pas un e-commerce qui va proposer uniquement des discounts, un peu comme ce que tout le monde fait.
Alors bon, là, c'est tout jeune, hein, ça démarre à peine. C'est d'ici un site internet de e-commerce de produits alimentaires made in Côte d'Ivoire. Il n'y a pas encore d'application mobile, donc on passe commande sur le site. Comment ça fonctionne ? Parce que vos clients, ils sont en Côte d'Ivoire.
Oui, tout à fait. La majorité des clients sont en Côte d'Ivoire, ils se connectent sur le site, ils passent commande et ils sont livrés. Voilà, c'est tout simple. Hein.
Et ensuite, on paye comment ?
Alors, on paye actuellement à la livraison. Il y avait en fait des modes de paiement en ligne, on a stoppé pour l'instant à cause des frais qui étaient un peu élevés. Et tout le monde préférait payer à la livraison. En Côte d'Ivoire, en fait, tout le monde paye à la livraison en règle générale.
Donc, on paye le livreur et le livreur vous rapporte l'argent, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme produit alimentaire sur le site ?
Il y a tout l'univers alimentaire, depuis le petit-déj, les ingrédients de cuisine, ce qu'il vous faut pour des pauses, tisane, café.
Ouais.
Il y a des produits qui se périment beaucoup plus rapidement, comme par exemple la confiture de mangue. Mais en règle générale, ce n'est pas des produits hyper frais.
Oui, c'est ça, ce n'est pas des produits frais.
On peut quand même conserver un mois, voilà.
Ouais. Ah, vous êtes sur un marché de niche quand même pour du e-commerce, non ?
Oui, oui, oui.
Ça a été quand même une offre un peu spécifique qu'on a voulu faire. Mais après, en fait, faut pas se dire qu'on avait cette idée-là en tête au moment où on s'est lancé.
Ah bon ?
Au moment où on s'est lancé, on voulait faire du Made in Côte d'Ivoire. Mais on savait pas exactement quel était l'état du marché, qu'est-ce que les gens proposaient. C'est au fur et à mesure qu'on discutait avec les créateurs locaux qu'on s'est rendu compte que c'était cette offre-là qu'ils proposaient. Et ben, du coup, on a fait un e-commerce qui était approprié, en fait.
Et vous faites des bonnes marges ?
Globalement, ça va. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a des périodes qui sont assez variables quand même.
Bon, mais vous êtes en phase de test depuis 6 mois. Alors, quelles sont les difficultés qui apparaissent là, sur lesquelles vous voulez challenger Didier Akwété ?
Alors, on a eu pas mal de difficultés au départ. Au début, on pensait qu'en fait, on allait galérer à convaincre des gens d'acheter parce que c'était vraiment un plus petit marché. Alors que non, en fait, pas vraiment. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont intéressés par ce genre de produits et même des expatriés. Sauf que, en fait, la difficulté, elle revient à aller négocier avec des artisans, des producteurs locaux pour leur faire comprendre que le e-commerce, ça peut marcher. Eux, ils y croient pas. En dehors de ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a des chiffres qui sont très variables. Et ça peut s'expliquer parce que généralement, on n'arrive pas, en fait, à conserver le client. On a chaque mois de nouveaux clients qui viennent. Mais les anciens clients, ils ne reviennent pas.
Oula.
Mais pourquoi, pourquoi, d'après vous, ils ne reviennent pas, Jean-Brice ?
Pour l'instant, on n'a pas spécialement d'idée. La première idée qui nous est venue, c'est que la majorité des gens achetaient par curiosité ou simplement pour découvrir. Peut-être que après le besoin, il n'est pas assez fort pour qu'ils reviennent acheter plus souvent.
Okay.
Concrètement, ma première question au coach, ça serait de savoir comment, en fait, on pourrait arriver à fidéliser nos clients. Alors qu'on propose quand même un catalogue qui est assez restreint.
Mais vous continuez de leur parler,
vous venez de répondre à la question, en fait. Si vous voulez, lorsqu'un client ne revient pas, il peut avoir plusieurs raisons. Soit parce que l'expérience client n'a pas été satisfaisante, ou le produit qu'il a consommé, il y a trouvé finalement peu d'intérêt, ou alors il a trouvé le même produit ailleurs, moins cher, ou à proximité, donc il n'a plus besoin de revenir sur la plateforme, ou le processus donc de traitement de son besoin a été un peu trop long. Donc ça serait bien effectivement que vous ayez le plus possible de feedback de vos clients. Mais mon point, c'est que généralement...
Bon, ils livrent en 2 jours maximum, normalement, donc c'est pas la troisième possibilité.
Quand vous avez une offre de produits très limitée, vous avez peu de chances de fidéliser le client parce que il va pas consommer le même produit tous les jours. Donc, il vient sur un cycle de besoins qui est un peu plus long, donc il reviendra moins souvent. Et donc, la proposition que je vais vous faire, c'est d'essayer d'élargir le plus rapidement possible votre gamme de produits pour que le client vienne régulièrement pour des besoins qui sont des besoins récurrents. Parce que ce qui fait vivre le e-commerce, c'est la récurrence du besoin ou alors le prix assez élevé du produit qui permet de faire de la marge et donc d'avoir des espaces de vie plus longs pour le prestataire. Donc, un, élargir la gamme de produits si c'est possible. Deux, c'est que dans l'offre de fidélisation, il serait bien de trouver des services, entre guillemets, comme par exemple l'offre de bons de réduction sur les achats dans un supermarché ou des achats automobiles. Vous voyez, Abidjan, par exemple, il y a une société qui s'appelle Abidjan.net. Je suis sûr que vous connaissez leur site.
Oui,
et ils ont une carte Abidjan.net, une carte de paiement à laquelle beaucoup de réductions sont adossées pour faire beaucoup de choses à Abidjan. Donc, imaginez que vous puissiez construire des partenariats avec des sociétés comme celle-là où vous offrez aussi des bons de réduction pour vos clients en partenariat avec d'autres prestats qui ont déjà négocié des remises pour vous éviter de vous relancer dans toute cette expérience. Donc, mon point, c'est que si vous arrivez probablement à diversifier votre gamme de produits ou vos gammes de produits et à associer à votre plateforme des services additionnels qui sont pas forcément vos services, mais qui permettent et incitent les consommateurs à revenir sur votre plateforme, vous avez d'autant plus de chances de vendre vos produits parce qu'ils viennent avoir d'autres expériences clients intéressantes sur lesquelles vous adossez votre plateforme. Donc, de la même manière, je lisais la partie logistique qui peut être une grosse contrainte qu'il faut sous-traiter, évidemment, pour ne pas vous retrouver avec des charges d'infrastructure trop importantes. Si vous arrivez à élargir votre gamme de produits, donc forcément vos ventes vont être démultipliées et donc votre chaîne logistique va être aussi beaucoup plus lourde à gérer. Et donc il faut absolument intégrer ces problématiques dès que vous commencez à élargir votre gamme de produits qui, à mon avis, aujourd'hui vous pose un problème de fidélisation. C'est pas parce qu'à mon avis le client n'aime pas votre produit, mais c'est parce qu'il n'a peut-être pas le besoin de consommer votre produit aussi régulièrement que vous l'imaginez. Et je lisais également que les clients ne laissent pas leur adresse email. Alors ça, c'est une grosse erreur. Quand on arrive sur une plateforme, la première information, c'est l'adresse email du client, sinon...
Vous ne commandez pas.
Sinon, il ne peut pas commander. Non, mais en fait, il faut que soyez, sinon vous avez du mal à construire une base de données clients, à les fidéliser, à avoir des actions commerciales.
Vous savez qu'il y a des clients qui se découragent et qui refusent, hein, qui disent, bah, si c'est ça, je ne commanderai pas. Il y a eu une étude là-dessus.
Comment on doit le livrer? On a au moins son adresse, où on doit le livrer. Et donc, si vous...
Et vous avez les numéros de téléphone, vous avez les WhatsApp, c'est ça?
Vous avez les numéros de téléphone,
vous pourriez constituer une base de données, donc...
Oui, généralement, ils laissent juste leur numéro de téléphone.
Bah, très bien. Donc, si vous dites, par exemple, en laissant votre adresse email, vous avez 10% de remise sur votre prochaine commande, vous créez une incitation aussi pour le client. Donc, il faut faire un peu plus de marketing pour arriver à encourager le client à laisser ses coordonnées et à revenir sur la plateforme.
Didier Acouetté, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait demander le point de vue de Brice avec son premier projet qui est passé au début de l'émission, qui propose des services de marketing digital automatisé. Vous êtes toujours en ligne avec nous, Brice, à Cotonou, au Bénin?
Oui, bien suivi.
Vous avez suivi ces difficultés sur le problème de la fidélisation des clients?
Oui, vous pouvez passer par une page Facebook qui fait des publicités. Et des types de publicité qui captent des coordonnées d'utilisateurs comme l'adresse email, le téléphone, qui vous permettra de les recontacter. Par exemple, s'ils ont acheté et qu'ils ne reviennent plus, vous pouvez les relancer par des messages tous ceux qui se sont intéressés à vos publications sur Facebook. Et comme ça, en leur proposant des offres, des réductions, comme l'a dit le quotidien.
Eh ben voilà, Brice, il va vendre des services de marketing digital automatisés à Jean-Brice qui est à Abidjan.
Deux offres qui se complètent.
Une toute dernière question très rapidement, Jean-Brice, vous avez encore une question à poser au coach.
Oui, au niveau de la logistique, si on doit élargir le catalogue, on a deux options. En fait, au départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait les produits en gros et qu'on les revendait. Mais sauf que là, en fait, si on a un cash disponible limité, on peut prendre très peu de produits en gros. Et si on veut élargir le catalogue, le mieux pour nous, ça serait de passer en fait à une gestion faite en zéro stock. C'est-à-dire avec très peu de stock, c'est uniquement au moment où la personne commande qu'on va chercher le produit pour livrer. La difficulté de ça, c'est que les services de livraison, ils sont très peu disponibles. Bah, du coup, ma question, c'est est-ce qu'on doit continuer à vouloir déléguer la livraison à des entreprises ou bien est-ce qu'à un moment... on peut avoir notre propre service de livraison.
Pour être plus souple, plus réactif.
Alors, c'est tentant hein, d'intégrer la chaîne logistique de livraison dans votre business model. Ça va vous coûter un peu cher, malheureusement. Maintenant, si vous investissez dans la logistique, peut-être vous auriez tout intérêt à offrir ce service de livraison à d'autres clients. Donc, vous créez en fait une activité à part entière pour vous, mais qui peut servir d'autres clients pour amortir vos frais, vos charges d'investissement. Sauf que quand vous serez débordé, bah vous ferez des clients mécontents parce que les clients à qui vous proposez ces prestations seront secondaires par rapport à vos livraisons à vous-même. Mais c'est pas une réponse facile. Si vous avez du volume et que vous pouvez les amortir avec cet investissement, ça vaudra certainement le coup. Mais au début, ça me paraît un peu cher. Ensuite, vous ne devez pas devenir gestionnaire de stock parce que c'est ça le danger et c'est aussi ça qui peut vous tuer. C'est-à-dire que quand vous avez du volume client, et c'est le problème de beaucoup d'entreprises, vous allez voir vos charges vont exploser parce que vos charges de stock vont exploser, les livraisons, etc. Si vous avez la possibilité, il y a des entreprises comme par exemple en Afrique du Sud dont j'ai parlé la dernière fois et que j'ai encore revu cette année, qui peuvent installer chez vos fournisseurs des logiciels qui permettent d'avoir en temps réel le stock des produits, ça vous facilitera la vie parce que vous n'aurez plus à gérer vous les stocks, mais vous aurez en temps réel les stocks disponibles quand le client passe commande, le fournisseur qui l'a disponible pour que le livreur aille chez ce producteur en particulier. Mais c'est encore une autre étape. Donc il y a certainement un modèle auxquels vous devez réfléchir assez rapidement pour ne pas être exsangue en termes de trésorerie quand vos volumes vont, de ventes vont exploser.
Vous avez commencé avec une somme de départ assez modeste, hein, aux alentours de à peine plus de 3 000 euros, 2 millions de francs CFA.
Oui, c'est ça. Oui.
D'ailleurs, les projets aujourd'hui, hein, ils ont démarré avec, avec très peu de mise de fonds. Hein, ça prouve qu'on peut démarrer. Vous êtes confiante pour un projet comme ça? Parce que le e-commerce, c'est quand même dur sur le continent africain. Il est sur un marché en plus de niche.
Oui. Alors ça se développe selon les pays. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire et une ville comme Abidjan, ce sont des plateformes qui se développent de plus en plus.
Mais parce ça met plus de temps que ce qu'on imaginait. Hein.
Alors ça met plus de temps parce que n'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, quand vous allez dans les quartiers, vous avez relativement des chaînes de distribution implantées dans beaucoup de quartiers. Donc dans chaque quartier, vous avez 2-3 supermarchés, 2 hyperettes et donc c'est vraiment une densification du réseau distribution. Donc du coup, les consommateurs, bah, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent s'arrêter devant un petit supermarché pour acheter. Donc forcément, le e-commerce peut avoir sa place lorsque le réseau de distribution n'est pas aussi densifié et que le prix d'accès est plus faible avec les moyens de paiement qui le permettent. Mais ce sont des marchés qui vont se développer évidemment dans toutes les villes en principe, compte tenu des questions de mobilité, des questions de trafic.
Et de la croissance démographique.
Exactement.
À méditer tout ça. Très bonne journée à vous, Jean-Brice, et bonne chance.
Merci. Merci, bonne journée.
Merci Jean-Brice.
Voilà pour ce site de e-commerce, c'est d'ici. Alors ça s'écrit pas comme c'est chez vous, hein, mais C-E-D-I-C-I. Voilà, un joli jeu de mots. On accueille dans quelques instants un nouveau projet au 33-1-84-22-71-71. I know you think I'm gonna stumble, break down under pressure. Won't you let me go? I caught a glimpse, I saw your vision, your big plans for me. I dare to say, I dare to see, somewhere else to be. Oh dear future, to you I'll be true. If you really want to know, intoxicated love, I'm suffocating, feel so lonely here with you. Better off alone on my own, on my own. Accueille un voisin qui est également à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Achille.
Bonjour Emmanuel, bonjour Didier.
Bonjour Achille.
Achille, vous avez 35 ans, vous avez déjà un parcours derrière vous. Vous êtes un ingénieur diplômé de conception industrielle et technologique à l'Institut National Polytechnique Oufouette-Boigny à Yamoussoukro. Vous avez été diplômé ensuite en management à l'EM Lyon, donc un master dans une grande école de commerce. Et c'est à la suite d'ailleurs de ce diplôme dans une grande école de commerce que vous avez, en rentrant en Côte d'Ivoire en 2013, eu l'idée de créer TG Masters. C'est une entreprise privée, hein, de coaching et d'aide pour les étudiants qui rêvent d'intégrer des masters prestigieux à l'étranger. Comment ça marche concrètement?
L'objectif de TG Master est de permettre à des candidats assez brillants ou motivés, on dirait, d'intégrer les meilleures écoles. Donc des personnes vers qui nous allons porter l'information via des séances d'information dont les grandes écoles locales, Abidjan, Yamoussoukro, et d'autres villes comme Boaké, Korogo. Mmh. Par la suite, présenter donc les différentes étapes de la candidature jusqu'à l'admission et les accompagner parce que les meilleures écoles recrutent sur des tests standardisés tels que le GMAT, le TAJMAJ, TOEIC, TOEFL, etc.
Ça, c'est des tests de langue.
Donc, GMAT, TAJMAJ sont des tests de management, il y a aussi le GRE. Et puis des tests de langue anglaise, comme vous le disiez, notamment le TOEFL, le TOEIC, le IELTS, etc. Donc nous allons préparer ces candidats-là sur ces tests et puis les aider à réfléchir aussi sur leur projet professionnel, ce qu'ils veulent faire, quand ils veulent se réorienter, vers quelle voie, comme ça a été le cas pour moi, passer de l'électrotechnique au management, à la finance.
Mais Achille, pourquoi il faut être coaché pour tout ça?
Alors, il faut être coaché pour tout ça parce que ce sont des concours ou des tests mondiaux. L'année, en 2007, quand nous intégrions ces écoles, dans le temps, la sélection, les résultats étaient programmés par ordre alphabétique. Et moi, j'avais vu des noms asiatiques, américains, africains, etc. Donc, ce sont des candidats qui viennent de partout dans le monde. Ouais. Et il faut être parmi les meilleurs pour intégrer ces écoles d'élite.
Et ailleurs, justement, dans d'autres pays, ils sont coachés ou pas, les asiatiques?
Alors, dans d'autres pays, oui.
Ils le sont.
Ils le sont, oui.
Même pour entrer en Inde.
Ils le sont, exactement. C'est, l'Afrique reste l'une des zones du monde où il y a très peu de possibilités de préparation. Contrairement à la France, contrairement à l'Inde, contrairement à la Chine, etc.
Alors vous proposez un package, hein, c'est ça, avec une préparation qui coûte quelques centaines d'euros pour 40 heures de cours, c'est ça?
Les prix vont varier en fonction du volume horaire. Donc on va aller même sur du 10 000 francs jusqu'à du 500 000 francs en fonction des besoins du candidat.
Donc en gros de 400 à 800 euros, oui.
Exactement, de 400 à 800 euros.
Et vous vous occupez de la préparation des tests, hein, vous les entraînez, mais il y a aussi tout le coaching pour monter son dossier.
Exactement, le coaching sur le dossier où l'école va demander les points forts, les points faibles du candidat, son projet professionnel, etc.
Et vous avez créé aussi un autre programme qui s'appelle TG Master Academy, là, qui s'adresse à un autre type de clientèle et de diplômés étudiants.
Tout à fait. Donc TG Master Academy, depuis septembre 2019, s'adresse à des candidats qui veulent passer beaucoup plus de temps dans la préparation et mieux réussir ce test, parce que l'expérience a montré que plus vous mettez du temps à comprendre les concepts, à être une bête de concours, en guillemets, et mieux vous réussissez.
Oui, forcément. Il faut aller très, très vite. Vous avez des questions au coach Didier à côté, parce que vous ne comptez pas vous arrêter là. Hein. Vous êtes assez ambitieux et vous voulez passer aussi de l'étape d'une simple prépa à plus tard une vraie université privée.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, TG Master est une très belle success stories, si on peut le dire, comme l'a dit dans l'un des articles qui a été publié sur nous, parce qu'en l'espace de 5 ans, 200 à 400 étudiants par an recrutés dans le monde entier. En été dernier, il y a eu 5 Ivoiriens qui ont été diplômés en juin dernier à HEC Paris.
Ouais, pas mal.
Donc effectivement, nous ne comptons pas nous arrêter là, au sein de stade de centre de coaching, parce que derrière, le business est limité face à cette approche. Donc nous souhaitons l'étendre en, on va dire, remontant la filière ou voilà, en étant une université privée plus tard. Et la question qui se pose, la première, du moins celle à laquelle nous réfléchissons de façon stratégique, qu'on a eu des discussions avec quelques investisseurs localement. Le problème qui se pose, c'est que les fonds que nous visons ne sont pas forcément mobilisables par des investisseurs localement. Et donc l'idée pour nous, du moins la question est de savoir est-ce que ce serait pertinent pour nous, ou est-ce que c'est une bonne approche de créer une holding en Europe, en France, puisque l'un des deux associés a la double nationalité, et puis de pouvoir donc tenter une levée de fonds dans un pays européen, en France notamment, pour pouvoir monter une université en Afrique. Et voilà. Et la deuxième question, l'université que nous voulons créer, en fin de compte, c'est pour pouvoir donc avoir beaucoup plus de temps d'accompagnement des personnes qui nous rejoignent et dans un deuxième temps, leur permettre de pouvoir avoir une sorte d'ancrage en Afrique avant de partir à l'étranger. Donc avoir une formation sur 3 ans. La question est de savoir est-ce qu'il est pertinent pour nous de s'orienter vers une formation plutôt technologique qui répondrait à certains défis immédiats de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, ou de rester sur une formation classique en management, en droit, en gestion, pour faire une continuité par la suite dans les écoles de management en Europe.
Bon, alors Didier Acouetté vous répond déjà. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un marché qui est en pleine explosion et qui va se développer de plus en plus compte tenu de la pression démographique et de l'offre qualitative très faible dans les pays, notamment francophones. Donc non, c'est certainement un beau projet. Et ce que dit Achille, dans les classes préparatoires, on vous prépare à l'entrée des grandes écoles. Donc c'est pas nouveau, que ce soit Harvard, les grandes écoles en France, on le fait, ne serait-ce même que la préparation. Une fondation, par exemple, comme Benia, qui depuis plus de 20 ans donne des bourses d'excellence en Côte d'Ivoire. Exactement, aux jeunes qui vont à HEC, Harvard, MIT, etc., les prépare. Donc Achille a raison. Alors maintenant, la première question, vous n'avez pas forcément besoin de créer un véhicule en France pour ça. Généralement, c'est d'ailleurs à Maurice qu'on crée les véhicules pour lever des fonds à cause de systèmes de taxation. Et vous avez effectivement aujourd'hui de la place. Quand vous voyez un fonds comme ECP ou Enco Capital ou Galileo qui aujourd'hui rachète des écoles en Afrique en levant des fonds internationaux, c'est que vous avez une place pour vous de manière indéniable. Maintenant, il faut qu'on se comprenne bien. Si vous voulez faire une université technologique ou former des ingénieurs BTP en énergie, évidemment, il y a de la place, mais je n'ai pas compris que c'était ce dont vous parliez.
Alors, technologique, c'est plus tout ce qui va toucher aux métiers de futur, comme tout ce qui est IoT, tout ce qui est données de masse, etc.
Bien sûr, intelligence artificielle, big data, etc. Bien sûr. Non, ça, ce sont effectivement des métiers de demain. Ces jeunes ne seront pas forcément absorbés en Afrique dans 1-2 ans, parce que les besoins sont beaucoup plus importants ailleurs. Mais clairement, c'est les métiers du futur qui sont des métiers transversaux qu'on va retrouver dans beaucoup d'organisations. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, en dehors des aspects techniques, c'est surtout les soft skills que les entreprises recherchent. C'est-à-dire votre capacité à comprendre les enjeux, à vous adapter, à gérer, à interagir avec les autres, à communiquer. Et le succès d'une université comme Africa Leadership University, qui est à Maurice, en Afrique du Sud, qui va ouvrir bientôt aussi à Abidjan, au Ghana. Mais vraiment, j'insiste sur les soft skills qui sont vraiment aujourd'hui les domaines dans lesquels les jeunes Africains ont le plus de difficultés aujourd'hui et dans lesquels on ne les forme pas dans les universités. Et justement, si vous offrez des formations complémentaires, même des gens qui sont formés dans les systèmes classiques aujourd'hui en Afrique, mais que vous leur offrez ces compléments, ils seront outillés. C'est ce que fait ALU, par exemple, au Rwanda pendant un an ou en Afrique du Sud. On vous forme à ça et après, vous allez dans les grandes écoles en Afrique ou à l'international. Donc, c'est très important. Il faut les intégrer. Quelles que soient les filières que vous choisirez, il faut intégrer ça. Et quand vous lirez toutes les études, tous les rapports World Economic Forum, the Africa Future, c'est vraiment ça les domaines dans lesquels on doit renforcer les aptitudes des jeunes Africains. Vous savez,
comprendre le monde qui nous entoure,
bien sûr,
avec des spécificités, des compétences techniques.
Exactement, 80% des nouveaux métiers qui vont apparaître dans les 10 prochaines années, personne ne les connaît. 30% des aptitudes dont les entreprises auront besoin, personne ne les connaît. Donc vous voyez,
il faudrait peut-être proposer aussi une boule de cristal dans ces écoles en même temps. Merci beaucoup Achille, en tout cas, de nous avoir appelé.
Si vous arrivez à les préparer à tout ça, là vous gagnez big time, comme on dit. Clairement, vous avez un boulevard devant vous et il faut juste bien cerner les segments dans lesquels vous allez diriger votre business school, votre centre de formation.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier Acouetté.
Didier Acouetté, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui démarrent et qui nous posent une question, et évidemment qui vous sollicitent, Didier Acouetté. Une question qui revient souvent, comment bien construire une politique commerciale?
D'abord, la politique commerciale part de votre stratégie commerciale. Et on en parle souvent, le produit peut être bien, mais si vous n'avez pas bien compris votre marché, donc vos clients, les acteurs du marché, les réseaux de distribution, etc., c'est difficile d'élaborer une stratégie commerciale. Donc, c'est d'abord bien comprendre votre marché pour savoir à qui vous allez vendre, à combien vous allez le vendre, où est-ce qu'il se trouve pour formuler votre politique. Parce que la politique est différente aussi de la stratégie. La politique commerciale, et j'ai cru comprendre que c'est d'abord autour de la politique commerciale, Ça veut dire que, quelle est votre politique de prix, par exemple, en termes de stratégie commerciale? Si je veux avoir des clients nouveaux, peut-être que dans ma politique commerciale, je vais avoir une politique prix beaucoup plus agressive. Si je veux avoir des clients qui ne sont pas dans une zone définie, mais sur une zone beaucoup plus large que je ne l'avais imaginé, dans ma politique commerciale, comment je définis ma stratégie, avec quel réseau de distribution pour aller vers ces clients potentiels ou ces prospects. Donc, vous devez prendre en compte un certain nombre d'éléments pour formuler votre stratégie et donc votre politique commerciale. Et la politique, c'est quelque chose qui est un peu plus sur du court terme. Donc, j'ai une politique commerciale pour conquérir des clients, conquérir des prospects,
se réajuster par rapport à un marché aussi. Mais souvent, je vous sens un peu agacé par rapport à nos projets qui sont en direct et qui dialoguent avec vous, les jeunes entrepreneurs, parce qu'ils ont un peu une politique commerciale au doigt mouillé, on va dire.
Oui, en fait, c'est pas de l'agacement, mais c'est du regret, parce que parfois, les produits sont bons, mais comme ils ne savent pas formuler une politique commerciale, les produits se vendent beaucoup plus difficilement. Et donc, si vous décidez que votre produit va mieux se vendre dans un supermarché, il faut clairement que votre politique commerciale soit beaucoup plus agressive vis-à-vis des supermarchés vers vos centres de référencement. Si vous dites, comme Brice tout à l'heure, moi je fais de la vente en ligne, donc toute sa stratégie est une stratégie fondée sur la vente à distance. Et donc, comment il va utiliser les réseaux sociaux? Comment il va s'appuyer sur les outils que proposait Jean-Brice tout à l'heure,
au Brice, le marketing digital,
etc. Exactement. Et donc, vous devez intégrer tous ces éléments quand vous élaborez une stratégie commerciale, donc une politique commerciale.
Donc, pour résumer,
vos clients, qui sont-ils? Où sont-ils? À quel prix sont-ils prêts à acheter vos produits? Et où vont-ils l'acheter? Parce qu'in fine, la politique commerciale, c'est vendre, hein, c'est vendre à quelqu'un, c'est faire du chiffre d'affaires, c'est faire du business. Ces clients, une fois que j'ai identifié, j'ai compris le bon prix, j'ai compris où est-ce que je vais les trouver, comment je me débrouille pour les fidéliser dans ma politique commerciale pour qu'ils reviennent régulièrement acheter mon produit pour que mon chiffre d'affaires augmente.
Donc,
c'est des questions qu'il faut se poser en amont, avec bien sûr des objectifs commerciaux que vous devez vous fixer à la base. Est-ce que je dois vendre 100? Je dois vendre 200, 1000, 10 000? À quel horizon? Et donc, selon ces objectifs, vous allez pousser votre politique commerciale vis-à-vis de vos cibles sur le temps et sur la durée.
Voilà. Et c'est la fin de la chronique, Didier Acouetté, sur la politique commerciale. Et si on veut les trois cas d'école, hein, justement, il suffit de réécouter l'émission. On avait un cas d'école, un projet en marketing digital, un projet sur l'enseignement supérieur et puis un projet de e-commerce. Didier Acouetté, vous êtes d'accord pour revenir le mois prochain, si votre emploi du temps le permet?
Avec grand plaisir, Emmanuel.
Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous n'avez pas pu passer dans l'émission, on est désolé, mais surtout vous restez en contact avec nous. Nous, on fait du marketing digital, mais à la main, on n'a pas de robot, contrairement à ce que propose Brice. Et c'est Delphine qui discute avec vous, et vous passerez bien sûr dans la prochaine émission, le mois prochain. Vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr. Merci à toute l'équipe, Delphine de Dianous, Juliette Brault, Romain Dubrac. Et demain, 7 milliards de voisins, on parlera de l'industrie du luxe, une croissance qui ne faiblit pas, et des ambitions sur le continent africain. Est-ce bien raisonnable?
Absolument. Et d'ailleurs, le prix de la PME de l'année dont je vous ai parlé à Johannesburg, c'est une femme qui est dans ce domaine, dans la joaillerie, et qui se développe très très bien.
Voilà, et puis comme ça donnera des arguments à un auditeur mécontent de vous, Didier Acouetté, Elia Saloubou-Mbashi, qui dit que vous n'avez pas forcément les réalités du continent dans la tête. Je précise que vous vivez sur le continent, Didier.
Et que je conseille les fils à papa, si Elia savait par où je passe sur le continent chaque jour. Ah, on va peut-être le prendre dans l'émission la prochaine fois, hein, Elias.
Jeune patron de l'Afrique qui gagne, ça ne veut pas forcément dire fils à papa. Et on en discutera la semaine prochaine, dans le mois prochain. Merci Didier, à demain les voisins et les voisines. Dans quelques instants, le journal sur RFI.